L'amour heureux meurt de satiété. L'amour malheureux meurt de faim.
L'amour heureux n'a pas d'histoire.
L'amour heureux n'a pas d'histoire dans la littérature occidentale.
L'amour malheureux vit de la faim dont il meurt.
La grande trouvaille des poètes de l'Europe, ce qui les distingue avant tout dans la littérature mondiale, ce qui exprime le plus profondément l'obsession de l'Européen, connaître à travers la douleur. C'est...
Connaître à travers la douleur, c'est le secret du mythe de Tristan. L'amour-passion à la fois partagé et combattu, anxieux d'un bonheur qu'il repousse, magnifié par sa catastrophe. L'amour réciproque malheureux.
Que savons-nous d'un amour qui ne nous ferait mourir ni de satiété, ni de faim? Rien ou presque. Comme nous ignorons tout d'une révolution qui ne serait pas un échec. Quelle image pouvons-nous nous faire des tentatives de révolution passées, sinon celle de soubresauts de l'histoire, magnifiés par leur catastrophe?
Ce qui nous tient lieu d'éducation sentimentale et ce qui nous tient lieu d'éducation politique, les résidus d'un même mythe.
Et lorsqu'éventuellement nous disons ne plus croire à l'amour, c'est en victime d'un phénomène spirituel que nos croyances matérialistes ne sont plus en mesure de justifier. Notre inquiétude est celle qu'éprouve l'esprit lucide devant le mythe. Non qu'il désire vraiment s'en libérer, mais il en a perdu la clé.
Tant de souffrances, si peu de combats. Cette phrase, par laquelle Walter Benjamin résumait l'humeur des personnages des affinités électives, pourrait être le mot d'ordre de l'éducation sentimentale civilisée.
Quant à nous, tenons ferme là-dessus. Pas de souffrance sans combat.
Alors il se pourrait que l'amour soit autre chose qu'une communauté de sentiments, une communauté de lutte.
Et aussi une lutte commune contre ce qui, dans l'amour, fait obstacle au communisme.
Le désir de fusion, l'égoïsme des amants, leur douce flottaison dans leur bulle.
Non, plutôt l'instable rapport à la jouissance.
Oui, je voudrais bien que l'amour consiste essentiellement à veiller au bonheur de l'être aimé, et le communisme à faire advenir le bien de tous. Et je peux vouloir le bien de l'autre, mais comment faire avec ce qui, de l'autre, ne veut pas son propre bien?
Pour devenir capable d'aimer, il faudrait savoir affronter ceci, que la jouissance de mon prochain, sa jouissance nocive, sa jouissance maligne, c'est elle qui se propose comme le véritable problème pour mon amour.
C'est la même chose qui se pose comme le véritable problème pour une révolution communiste. Tant que l'on se tient au plan de l'utile, il n'y a pas de problème. Les utilitaristes l'ont bien compris. Le problème n'est pas celui de la différence des biens désirables. Tant qu'il s'agit du bien, il n'y a pas de problème. Le nôtre et celui de l'autre sont de la même étoffe. Le problème est celui, éludé en général et beaucoup plus redoutable, du mal que je désire et que désire mon prochain. L'objection récurrente faite aux révolutionnaires selon laquelle on ne peut pas vouloir faire le bonheur des autres à leur place n'est pas pertinente. Ce qui voue à l'échec le projet de vouloir le bonheur pour les autres n'est pas la différence irréductible des biens, mais la discordance des jouissances. En général, les révolutionnaires sont distraits. Ils préfèrent ne pas voir que les voies de la jouissance ne coïncident pas avec celles du besoin.
Alors, voilà comment la libération du désir qui a eu lieu dans le sillage de mai 68 ne s'est pas doublée d'une révolution politique. Et pourquoi on a au contraire plutôt assisté à un échouage de la révolution sur les rives de la dite révolution sexuelle, qui a pu se prolonger sous des formes composant avec le plus pur libéralisme existentiel. Ce qu'on a appelé révolution sexuelle a conduit à défaire la jouissance de sa subordination à la loi de la reproduction, à la loi de la famille. Ce qui ne revient pas à déprendre la jouissance de la loi, mais à instituer le règne d'une nouvelle loi, quelque chose comme un impératif de jouissance. Ici s'opère l'ajointement avec le libéralisme dominant, qui prospère sur la disjonction de la jouissance maligne des uns et des autres, leur offre tant de voies d'expression. Au point de faire de la quête de la jouissance une sorte de nouveau service des biens, et l'on ne peut plus opposer le renouveau de la famille et le succès des clubs échangistes. Et un nouveau public émerge qui consomme tantôt des films pornographiques et tantôt des chansonnettes sentimentales.
Il n'y a plus, à proprement parler, conflit de deux morales hostiles, mais un état de neutralisation mutuelle au terme de la consomption des vieilles valeurs non transcendées, mais déprimées.
Le mythe de l'amour-passion n'est plus disponible comme modèle de spiritualité qui puisse inspirer notre conduite, mais ces restes desséchés forment encore la matrice de nos imaginaires et de nos expériences. Pour échapper à cette matrice, je ne vois que deux directions. Il y aurait, encore disponible d'avoir été mal entendu, l'inspiration fouriériste. Chercher à libérer la passion du déchirement, de son lien à la mort. Et puis il y aurait un autre chemin, l'affirmation d'une absoluité de l'amour, reposant sur le seul arbitraire d'une décision.
De toute façon, il y a dans tout amour vécu quelque chose qui ne peut l'être. C'est cette part invécue et qui ne peut se vivre, qui appelle l'amant ou bien à se tourner vers un autre objet d'amour pour tenter de vivre à son contact ce reste non vécu, ou bien à se tourner vers autre chose que l'amour. D'un côté, exposer tel attachement vécu au risque d'autres attachements, de l'autre, chercher comment un amour survit à la décision irréversible d'allier une vie à une autre. Dans tous les cas, nous rendre capables d'habiter ce qui est là, sans conjurer l'avenir par le comblement imaginaire, et accorder nos relations à une forme d'attente communiste. Ne pas s'en remettre au « tant que ça dure », mais apprendre à sentir que tout n'est pas déjà là. Rien ne nous manque, nous ne serons jamais comblés.
Ont participé à cette pièce sonore de vive voix Bernard Aspe, Sophie Briand, Anne Colly, David Chevrel, Muriel Combe, Laurent Coteau, Soisic Crochet, Claire Daventry, Olivier Derousseau, Thierry Gobert, Marie Goulet, Thierry Joannic, Yann Le Quinf, Jérémy Le Proust, Nathalie Nambeau, Céline Poutier, Jean-Hubert Provost, Nathalie Savignac, Laurence Van Poel.
Et merci à Rodolphe Adam, Anna Arendt, Georges Bataille, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Walter Benjamin, Stanley Kevel, Éric Fassin, Charles Fourier, Sigmund Freud, Anthony Giddens, Friedrich Goethe, Jean-Luc Godard, Advige d'Anvers, Marie-Elisabeth Handmann, Jean-Claude Kaufmann, Søren Kierkegaard, Jacques Lacan, Eri De Luca, Dionis Mascolo, Henri Michaux, Friedrich Nietzsche, La Compagnie de l'Oiseau-Mouche, Cesare Pavese, Valeria Piazza, Platon, Denis de Rougemont, Carole Roussopoulos, Saint-Paul Roux, Lou-Andrea Salomé, René Scherrer, Hjalmar Söderberg, Étienne Souriau, Tikkun.